Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire des mots pour le dire, Méandre de l'amour, Eros et Agapé, c'est le livre qui est paru aux éditions d'Hervy, et dont l'auteur est Michel Théron, qui est juste en face de moi. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
Donc voilà, ce livre qui est notre GPS dans ces méandres de l'amour, sinon on s'y perdrait, tellement les coups de foudre, les coups de cœur ou les coups de gueule peuvent transformer à la fois la caresse en gifle, parce que tout dépend de la vitesse et à quelle manière et quelle intention on le fait. Et on va aborder la question de la sexualité aujourd'hui. Si vous me le permettez, Michel, je commencerai par deux, trois petites citations. La première, c'est celle de Michel Foucault qui dit « Sans contrainte, il n'y a pas de discours, sans tabou, il n'y a pas de sexualité. » Søren Kierkegaard, alors là, on est dans le calvinisme le plus total, qui dit « La sexualité, c'est assez monotone. » Et enfin, de Kijo Yoshida, « Ce qu'il y a de plus subtil dans l'homme, c'est la sexualité. » Voilà, c'est pour...
Voilà, oui. Alors, ce sont des citations très hétéroclites, très diverses. La citation de Kierkegaard me fait penser à l'axiome latin « Omne animal post coitum triste », c'est-à-dire « Tout animal est triste après la rencontre sexuelle, après le coït hein. ». C'est effectivement, vous avez dit que c'était un protestant très, comment dire, austère alors.
Hein, oui, luthérien.
Luthérien,
du Nord.
Voilà. Voilà. Donc effectivement, l'idée est que dans l'acte d'amour, l'homme se sent trompé, manipulé par le génie de l'espèce. Hein. Schopenhauer, dans un texte essentiel qui s'appelle « La métaphysique de l'amour », nous dit que la nature se sert de nous comme de pantins ou de marionnettes pour perpétuer l'espèce. Hein. Il dit que l'amour, il le dit en latin, hein, c'est une « meditatio compositionis generationis futurae », cuius iterum pendent, et quoi iterum pendent innumerabiles generationes. Alors je traduis tout de suite, hein. C'est la méditation de la composition de la génération future à partir de laquelle dépendent à nouveau, iterum, hein, de nouvelles générations. Donc l'homme dans l'amour physique croit choisir son partenaire avec une totale liberté, hein, et en fait il n'est que manipulé par l'instinct génésique, la vie qui à travers lui veut se perpétuer. Hein. Lucrèce le disait déjà, hein. Et quasi cursores vitae lampadam tradunt, et comme des coureurs, les hommes se passent le flambeau de la vie, vous voyez hein. Donc on transmet le flambeau, l'étincelle. Alors on se croyait autonome, on se croyait libre, on n'est que manipulé. Nous sommes des proies dans les mains de ce fameux génie de l'espèce. C'est assez impressionnant, hein, Redouane, cette
oui.
Idée.
Il faut être maître de soi dans ces cas-là.
Absolument, d'où l'impression de duperie hein, qu'il y a. Donc, tout animal est triste, tout être vivant est triste après l'amour. Je pense, vous voyez, Redouane, que c'est beaucoup plus masculin que féminin, cette impression. Parce que si l'homme se sent dupé, manipulé, la femme, elle se sent plutôt dopée. Hein. C'est-à-dire, elle est dans les forces de vie et finalement, la dépression féminine n'est pas la même que la dépression masculine. Pardon. Si la dépression masculine se produit post-coitum, eh bien, la dépression féminine se produit non pas après la rencontre sexuelle, mais post-partum, après l'accouchement, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle le baby blues. Hein, mmh. Voilà, hein. Voilà, je vois hocher la tête,
oui,
signe d'acquiescement. Voilà, donc ben nous voyons, c'est le sujet de l'émission d'aujourd'hui, que nous avons déjà amorcé dans l'émission précédente, les deux moitiés du chemin, où nous parlons de la différence entre l'homme et la femme dans l'approche de la sexualité. En effet, le sexe contient une sorte de malédiction intrinsèque. Hein. Le sexe est séparation, section. Et le mot sexe vient du latin fait carré qui veut dire coupé. Alors j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'androgynie initiale de l'être, dont le rêve alimente les attentes fusionnelles de l'amour. Cette androgynie, nous en avions parlé, rappelez-vous, Redouane, lors d'une série précédente d'émissions, je crois l'année passée ou avant, consacrée à l'évangile selon Thomas. Il y a un logion dans l'évangile selon Thomas qui nous dit « Lorsque vous faites le 2-1, alors vous connaîtrez le royaume », c'est-à-dire séparer la dualité, la scission, la section, du sexe, hein, pour arriver justement à l'unité. Malheureusement, c'est plutôt théorique que praticable. Il est vrai que initialement, les êtres humains ont été créés mâles et femelles. Et là, Redouane, je parle sous votre contrôle, dans la Bible, dans le premier récit de création, hein, dans Genèse 1, eh bien, mâles et femelles, il les créa. Hein. C'est pas il créa les hommes et les femmes, hein, mais il les créa mâles et femelles. Seulement, dans le deuxième récit, alors, hommes et femmes sont séparés, après la fameuse opération chirurgicale, hein, Ève est tirée d'une côte d'Adam, et donc la compagne que Dieu lui a créée pour Adam, elle va lui faire face. Donc là, il y a une dualité, si vous voulez. Alors, on rêve toujours de cette androgynie, de cette fusion. Dans l'amour, beaucoup de gens cherchent une fusion, hein, voilà, ne faire qu'un, comme deux flammes de deux bougies, par exemple, hein, se pourraient se réunir en une seule flamme. C'est très beau ce rêve, mais je ne pense pas qu'il soit praticable. Je ne sais plus quel humoriste, vous voyez, Redouane a dit « C'est bien beau que deux ne fassent plus qu'un, mais lequel ?» Vous voyez, lequel? C'est-à-dire qu'il y a toujours un qui a une prévalence sur l'autre. Hein, lequel des deux? Voilà. Dans la vie réelle, je ne crois pas que la fusion soit possible, ou la fusion totale, durable, etc. Hein, et chacun doit affronter sa propre solitude. Ça, c'est une idée qui m'est chère. La solitude est une constante anthropologique de l'être humain. Mais enfin, on pourrait imaginer, pour que la rencontre de l'homme et de la femme se fasse mieux, un double mouvement, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle les deux moitiés du chemin, hein. Hommes et femmes sont séparés par un grand fleuve, sur deux rives très éloignées l'une de l'autre, eh bien, ils doivent faire les deux moitiés du chemin pour essayer de se rencontrer au milieu du fleuve. Alors, d'abord, il faudrait imaginer une sorte de féminisation de l'homme, hein, qui pourrait tenir compte, par exemple, des vertus de l'attente dans l'exercice de la sexualité, dans l'acte physique, hein, puisque l'homme est impétueux, il est tout un flamme, hein, alors que la femme a besoin justement de temps pour se mettre à ce niveau d'intensité, hein, et à l'inverse, une masculinisation de la femme. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que j'entends par masculinisation de la femme? Je ne tiens pas à ce que la femme soit une virago, ou hein, une homasse, comme on dit. Hein. Remarquez que la Bible dit elle sera appelée Isha parce que elle a été tirée de Ish, hein, finalement, et Jérôme traduit dans sa Vulgate « Cognam de viro sum ta est », comme elle a été tirée de vir, de l'homme, hein, elle sera appelée virago. Virago. C'est même une virago chez nous. Hein. En fait, si on voulait traduire le paronomase ish, isha, on devrait traduire homme et homesse. Hein.
Isha en hébreu.
Un hébreu, oui, ouais, un hébreu. Ouais. Homme et homesse, hein, mais pas homas, hein, parce que là, on pense à ce qu'on appelle les maîtresses femmes. Qu'est-ce que c'est qu'une maîtresse femme, Redouane? C'est une femme qu'on ne voudrait avoir dans la vie, ni pour maîtresse, ni pour femme, si vous voulez. Voilà, c'est ça, là, la virago. Hein. Bon, mais le pauvre Jérôme, il a fait ce qu'il a pu. Hein. Il a essayé de trouver un calque latin, virago, hein, pour le jeu de mots. Mais en fait, c'est intraduisible. Sauf dans la langue initiale, on ne voit pas un phonème commun entre homme et femme. Alors, la masculinisation de la femme serait le fait que la femme doit comprendre que l'homme, il est logos, hein, il n'est pas désir ou éros comme elle peut l'être. Hein. La femme est essentiellement, Hegel disait, c'est l'éternelle ironie de la communauté, c'est-à-dire que par son désir, elle fait tomber toutes les règles et toutes les lois. Hein, voilà. Donc, elle est éros. Hein, bon. Mais l'homme, il est logos, c'est-à-dire qu'il est langage. Et souvent, la femme attend de l'homme qu'il comprenne ce qu'elle lui dit, mais à demi-mot, si vous voulez, à demi-mot, de façon non explicite. Or, moi, je crois que la femme devrait quand même développer son langage et savoir que l'homme, finalement, ne comprend pas si on ne lui explique pas les choses nettement, clairement, vous voyez. Beaucoup de femmes voudraient être comprises à demi-mot, hein, mais malheureusement, l'homme, lui, n'est pas...
n'a pas le logiciel
approprié, puisque lui, il est avant tout langage, vous voyez. Freud disait à propos des femmes, mais qu'est-ce qu'elles veulent, vous voyez. Et rappelez-vous, à la fin de l'émission précédente, nous avons passé la chanson de Zanini, tu veux ou tu veux pas, hein. Bon, parce que finalement, l'homme est embarrassé, hein. Regardez, alors j'avais cité la scène très fameuse, qui est une scène d'anthologie de Quai des Brumes, hein, le film de Carnet, où Gabin justement dit à Morgan, t'as de beaux yeux, tu sais. Et que répond Morgan? Elle dit simplement, en fermant les yeux, embrassez-moi. Vous voyez, là vous avez la différence entre l'homme et la femme. L'homme parle, il est logos, et la femme cherche simplement l'étreinte, le baiser. Hein. Mais je crois quand même que c'est nécessaire de parler, hein, et c'est ce que j'appelle la masculinisation possible de la femme, qu'elle parle davantage, hein, plutôt que de vouloir être devinée. Alors, peut-être vous me direz, Redouane, que actuellement les choses ont changé, que la réserve féminine, le refus du langage net et clair, elle était corrélée à une éducation ancienne, où on apprenait aux femmes qu'elles devaient être réservées, pudiques, qu'elle devait se faire désirer. Peut-être que maintenant, les jeunes filles d'aujourd'hui sont plus franches et directes dans le langage. C'est tout à fait possible, hein, Edouard. Alors, nous serions, nous, vous et moi, des laudatores temporis acti, comme on dit à la thèse, c'est-à-dire des amoureux du temps passé. Hein. Autrefois, voilà ce qui se passait. Bon, je ne sais pas. Hein. C'est possible. Vous fréquentez souvent les jeunes, Redouane.
Oui.
Peut-être que les filles sont aussi hardies dans le langage que les garçons, non? C'est possible.
Socialement, les choses ont changé, ça c'est vrai, il y a une reconnaissance de l'altérité comme étant égale, chose que pendant très longtemps, parce que justement quand on demande à la femme d'être discrète dans ses désirs ou dans son désir, c'est aussi la représentation qu'on se fait de la femme. La femme elle est là pour être désirable, non pas pour désirer. Être le sujet du désir.
Ça, c'était l'ancienne éducation.
L'ancienne éducation. Et aujourd'hui, le sujet du désir, c'est l'un et l'autre. Donc, c'est vrai que la configuration est différente. Ça ne va pas s'en poser de problème, ou d'autres problèmes, ou d'autres problématiques. Mais l'initiative, c'est comme disait un chanteur de mon temps, le premier pas. Qui fait le premier pas?
Voilà.
C'est comment aborder, et c'est vrai que la question, qui est une question d'actualité sur la problématique, le harcèlement sexuel, est-ce que dire à une femme « t'as de beaux yeux » aux États-Unis, ça peut être compris comme étant un harcèlement sexuel?
Oui.
C'est toute la question de la relation à l'autre dans le respect, ça peut être dans le désir. Je veux dire, le désir n'est pas quelque chose de néfaste ou de négatif. C'est désirer l'autre, c'est avoir envie de
tout à fait.
Faire connaissance, de faire un bout de chemin ensemble. Ce n'est pas seulement le désir primitif sexuel.
Voilà, moi je pense que cette judiciarisation des conduites qui nous vient des États-Unis d'Amérique pose énormément de problèmes, parce que où commence le harcèlement? J'ai lu quelque part récemment dans un magazine qu'aux États-Unis, un homme ne prend pas l'ascenseur tout seul avec une femme. Hein, parce qu'imaginez ces buildings qui ont 20 20 étages ou plus, hein, il peut se passer des choses dans l'ascenseur pendant tout son trajet. Eh bien, un homme refuse d'être seul avec une femme dans son ascenseur. C'est gravissime, ça, il me semble, hein, parce que...
Oui, parce que ça veut dire qu'on on est dans une relation de chasseur à chassé.
Voilà. Tout à fait, tout à fait. Et donc, finalement, on va raser les murs en évitant le regard, hein, les œillades, si vous voulez, ce qu'on appelait autrefois les œillades. On parlait d'œillades assassines, etc. Hein. Voilà, ça, c'est très grave.
Mais disons, c'est peut-être ce qui change dans certaines... contrer, c'est que ces œillades ne sont pas seulement du côté masculin, c'est aussi du côté féminin. Voilà, c'est tout un jeu, je pense. C'est comme dans le tango. Moi, c'est
tout à fait.
Le tango, c'est aussi bien l'homme que la femme qui entraîne la danse, le corps, l'étreinte. Voilà, il n'y a pas de dominant et de dominé.
Oui.
Mais c'est tout un ballet des corps.
Et alors, justement, pour rebondir sur cette histoire du tango, il a été considéré comme une danse diabolique par l'Église. Il a été interdit. Hein, parce qu'elle était trop lascive, trop sensuelle. Et pendant ces 20 siècles de christianisme qui nous ont marqués, aujourd'hui ça a peut-être un peu changé, la sexualité n'a été qu'un pis-aller qui était justifiable seulement par la reproduction, vous voyez, aux yeux de l'Église. Hein. Encore récemment, j'ai lu ça dans la presse, on a vu un évêque italien interdire un mariage où le partenaire qui avait été rendu handicapé par un accident ne pouvait copuler. Donc le mariage n'était pas accompli, hein, consommé comme on dit. Hein. Voilà, c'était gravissime. Le mariage a toujours été considéré par les religions, enfin traditionnellement, comme ayant pour but la procréation. Voilà, hein. La sexualité n'avait que ce sens-là. Et le judaïsme, je l'ai dit déjà dans une émission précédente, n'est pas mieux loti que le christianisme, puisque dans ses versions intégristes, on peut répudier une femme qui ne peut avoir d'enfant. Hein. Et on ne se pose même pas la question de savoir si l'infertilité ne vient pas de l'homme, puisque le spermogramme, l'analyse du sperme, est interdit depuis le péché biblique d'Onan, vous voyez. Et j'avais cité aussi l'effrayant film Kadosh d'Amos Gitai, vous voyez. Hein. Alors, donc, finalement, le mariage, c'est la reproduction. Et l'Église, au moins l'Église catholique, alors l'Église protestante a changé, je pense, d'après ce que j'ai lu, refusera toujours de marier des homosexuels, parce qu'il n'y a pas de reproduction possible, en dehors de l'adoption, etc. Hein. Bon, donc, c'est une question canonique, de droit canon, pour l'Église catholique seulement. Hein. Bon, donc je vois pas d'ailleurs pourquoi elle manifeste justement contre ce mariage, puisque tout simplement, pour elle, le mariage civil est nul et non avenu, il n'y a que le sacrement qu'elle donne, le sacrement de mariage, et jamais, jamais de la vie, on ne mariera des homosexuels, puisque justement il n'y a pas cette reproduction possible. Alors, il y a dans un avion, le pape actuel aurait dit à des journalistes à propos des homosexuels, qui suis-je pour les condamner? Et tout de suite, les journalistes ont fait chorus pour dire, ah, bientôt il va les marier. Mais non, le pape a dit ça simplement en reprenant l'épisode de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Mais de toute façon, la femme adultère est pardonné, mais son péché n'est pas pardonné. Va et ne pêche plus. Donc c'est absurde de dire que l'Église catholique mariera les homosexuels, vous voyez. Alors, il en est assez différent chez les protestants. Alors, si on revient à l'amour sexuel, à la sexualité, d'autres cultures que la nôtre n'ont pas ces condamnations de la sexualité. Chez nous, par exemple, si vous voulez, la Vierge Marie, le dogme de la Vierge, enfin, l'histoire de la Vierge Marie, disjoint radicalement la maternité et la sexualité, puisque elle est à Parthénos, toujours vierge, comme l'a dit un concile. Alors, je parle dans le milieu catholique, hein, pas du tout pour les protestants. Et donc, on peut très bien, elle a eu un enfant sans avoir de contact sexuel, si vous voulez. Hein. Voilà. Donc, cette disjonction est essentielle. Je ne suis pas d'accord avec elle, bien entendu. Hein, mais parce que je considère que la virginité n'est pas un état définitif d'une femme. Mais bon, c'est mon affaire. Mais de toute façon, comme elle a été décrétée toujours vierge, semper virgo en latin, aepartenos en grec, eh bien, on disjoint les deux choses. Et en pays latin, moi j'ai été élevé dans cette culture, il est impensable pour un fils que sa mère ait eu une sexualité, un acte sexuel, je dis commis, comme si ça avait un péché, si vous voulez. Non, la mère ne doit pas être la femme. Alors ça, c'est grave, bien sûr, hein, cette disjonction. Mais jamais de la vie, dans un pays catholique de vieille tradition catholique, la mère n'est conçue comme quelqu'un qui a pu connaître le plaisir sexuel, vous voyez. Bon. Alors, d'autres cultures, et vous, Drédouane, qui êtes un grand voyageur devant l'éternel, peut-être avez-vous été en Inde, par exemple, je ne sais pas si vous avez, peut-être vous irez. Hein.
À Pondichéry, j'étais à Pondichéry.
Ah, mais vous voyez, alors je découvre toujours avec vous des paysages. C'est bien ces émissions, parce que on navigue dans le monde entier, hein, voilà. Bon, à l'Inde, le Kama Sutra, par exemple, les techniques, justement, pour alimenter le désir, Kama, hein, c'est quelque chose qui est valorisé. Il y a une vénération du lingam, c'est-à-dire du phallus, si vous voulez, hein, et la vulve féminine, la yoni aussi. Bon, tout cela est entouré, est sacralisé, si vous voulez. Hein. Je crois que cette culture est à mille lieues de la nôtre, au moins notre culture traditionnelle, et il me semble que ce que l'on doit retirer, c'est quand même, pour terminer sur cette question, bien distinguer la reproduction, hein, qui est bon peut-être nécessaire, hein, et la sexualité. Donc l'amour dans sa composante charnelle, elle a deux aspects, la reproduction et l'enfant à naître, ils seront une seule chair. Vous savez que Rashi, le théologien juif de Troyes, hein, disait que une seule chair, c'était l'enfant à naître, hein, ils deviendront une seule chair, hein. C'est pas du tout l'androgyne au sens platonicien, la fusion, hein. Non, c'est l'enfant à naître. Alors ça, c'est un aspect de l'amour sexuel humain, mais à côté de cela, il y a ce que j'appellerais la fonction érotique, qui est très différente, justement, de la fonction génésique. Hein. C'est très important, me semble-t-il. Par exemple, il y a un livre essentiel du sexologue Gerald Swank, que je conseille à tous les auditeurs. Ce livre s'appelle « La fonction érotique ». Hein. Il est paru chez Robert Laffont en 1972, et il a été réédité en 1992. Hein. Donc, fonction génésique, une chose. Fonction érotique, c'est-à-dire définaliser, hein, l'apprentissage du plaisir qui est épanouissant, hein, aussi bien entendu, hein, et qu'il faut mettre en évidence. Alors j'ai choisi comme première pause musicale une chanson assez ancienne de Nicole Croisil, Une femme avec toi, qui montre bien que cette différence entre l'homme et la femme peut s'estomper.
Léger que la cendre de leur cigare. Ils donnaient des soirées au château de Versailles. Ce n'était que des châteaux de paille. Et je perdais mon temps dans ce désert doré. J'étais seule quand je t'ai rencontrée. Les autres s'enterraient, toi tu étais vivant. Tu chantais comme chante un enfant. Tu étais gai comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Et moi, pour la première fois, je me suis enfin sentie femme. Femme, ressemblait un peu à ces terres d'avant où galopaient des chevaux tout blancs. Ton visage était grave et ton sourire clair. J'ai marché tout droit vers ta lumière. Aujourd'hui, quoi qu'on fasse, nous faisons l'amour et pareil de toi. Le temps paraît si court parce que tu es un homme et que tu es gentil, que tu sais rendre belle la vie. Toi, tu es gay comme un Italien quand tu le sais qu'il aura de l'amour et du vin. C'est toujours comme la première fois quand je suis enfin devenue femme. Avec toi.